Bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
La mer, toujours recommencer. Oh, récompense après une pensée qu'un long regard sur le calme des dieux. Quel pur travail de fins éclairs consume main diamant d'imperceptible écume. Et quelle paix semble se concevoir.
Bienvenue sur les chemins du vendredi où chaque semaine nous tentons de réconcilier philosophie et actualité sous toutes ses formes. Problématique du jour, personnalité et essais en tout genre, une autre manière de tendre le micro à la philosophie en train de se faire. Et l'équipe des Nouveaux Chemins, c'est aussi la philosophie en train de se faire. Denis Ramon, Marianne Chassor, Antoine Ravon, Lucie Tardy, David Pargamin et bien sûr Adèle Van Rett, avec Nicolas Berger à la réalisation, Vincent Schmitt à la lecture des textes et à la prise de son aujourd'hui, Lucas Vaillant. Les deux qualificatifs qui reviennent le plus souvent en référence à la mer concernent sa couleur et son éternité. La mer est bleue et elle est intemporelle. La côte a changé, on y a construit des hôtels et des promenades, mais la mer est restée la même, comme elle était quand la côte était sauvage. Comme elle était au premier jour de la terre, avec les mêmes vagues, la même teinte, la même force, indifférente à notre présence. Pourtant, les descriptions qui datent d'avant les bains de mer présentent la mer et les bords de mer sous un autre jour. Quelle est cette éternité prêtée à la mer? Comment l'impression nous en vient-elle? N'est-elle qu'une apparence qu'il faudrait distinguer d'une réalité? Et la couleur de la mer a-t-elle une objectivité indépendante de notre regard? Si elle ne se reflétait pas dans un œil humain, la mer ne consisterait-elle pas en un bain de molécules sur lequel viennent rebondir les photons du soleil? Pourtant, ce bleu que nous admirons à la surface de l'eau ne se présente-t-il pas comme antérieur à et indépendant de notre propre vision? En quoi consiste-t-il s'il semble montrer sa préhistoire et son objectivité? Décrire, exprimer l'expérience du bord de mer, c'est expliciter la couleur de la mer, sa temporalité et l'objectivité de la couleur comme la structure de temps que cette présence implique. C'est entrer dans la métaphysique. Alors que la saison 2015-2016 des Nouveaux Chemins de la Connaissance touche à sa fin et que l'été rechigne à pointer le bout de son nez, rien de mieux que de se plonger dans cette métaphysique d'un bord de mer, métaphysique qui s'ouvre sur ces lignes que je viens de lire et que l'on peut découvrir aux éditions du CERF, et métaphysique que l'on doit à Pierre Kassounoguès, philosophe et écrivain, professeur à l'Université Paris 8, ici présent pour nous la présenter. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour, merci.
Grande, très grande différence entre les deux éléments. La terre est muette et l'océan parle. L'océan est une voix. Il parle aux astres lointains, répond à leurs mouvements dans sa langue grave et solennelle. Il parle à la terre, aux rivages, d'un accent pathétique, dialogue avec leurs échos. Plaintif, menaçant à son tour, il gronde ou soupire. Il s'adresse à l'homme surtout. Comme il est le creuset fécond où la création commença et continue dans sa puissance, il en a la vivante éloquence. C'est la vie qui parle à la vie. Les êtres qui par millions, milliards naissent de lui, ce sont ses paroles. La mer de lait dont ils sortent, la féconde gelée marine, avant même de s'organiser, blanche, écumante, elle parle. Tout cela ensemble, mêlé, c'est la grande voix de l'océan. Que dit-il ? Il dit la vie, la métamorphose éternelle. Il dit l'existence fluide. Il fait honte aux ambitions pétrifiées de la vie terrestre. Que dit-il ? Immortalité. Une force indomptable de vie est au plus bas de la nature. Combien plus au plus haut, dans l'âme ? Que dit-il ? Solidarité. Acceptons le rapide échange qui, dans l'individu, existe entre ces éléments divers. Acceptons la loi supérieure qui unit les membres vivants d'un même corps, humanité. Et au-dessus, la loi suprême qui nous fait coopérer, créer avec la grande âme, associée, dans notre mesure, à l'aimante harmonie du monde, solidaire dans la vie de Dieu.
Pierre Cassounogas, c'est l'historien Jules Michelet qui décrit ainsi la mer dans son ouvrage justement intitulé « La mer » qui date de 1861 et dont on vient d'entendre un extrait interprété par Vincent Schmitt. C'est un texte justement que vous citez dans votre livre « Métaphysique d'un bord de mer » et qui permet d'aborder la distinction entre la terre et la mer. Michelet nous dit ainsi que la terre est muette quand la mer nous parle. Mais que peut bien nous dire la mer alors qu'elle semble indifférente à nous, alors que ces vagues semblent aller et venir indifférentes à notre présence?
Ben justement, c'est un très beau texte de Michelet. Et dans ce texte, donc, la mer nous parle et en même temps, elle ne nous dit rien de compréhensible. C'est-à-dire, ce qu'elle nous dit, c'est son étrangeté. C'est-à-dire, à la fois, il y a une sorte de communication entre la mer et nous. On l'entend, elle veut nous parler. Et ce qu'elle nous dit, on ne le comprend pas. C'est autre chose que ce qui forme le contexte de notre vie sur la Terre. Et dans cette étrangeté de la mer, on pourrait y voir comme une planète étrangère. D'ailleurs, il y a cette idée que la mer parle aux astres. Elle parle aux astres parce qu'elle communique avec les astres, avec la Lune en particulier, qui fait les marées. Mais ça, sans doute que Stanislas Lem, dans Solaris, la planète océan, se souvient de ce texte de Michelet. Et ce que Lem décrit dans la Solaris, cette planète océan, c'est justement un être donc qui a des vagues, qui communique avec les cosmonautes et que ceux-ci ne comprennent jamais, qui reste entièrement mystérieux. Et c'est de cela qu'il s'agit dans ce texte de Michelet. Alors, vous parliez au début ce que je disais dans mon livre sur à la fois cette éternité de la mer et cette multiplicité de descriptions. D'une certaine façon, le texte de Michelet, donc du milieu du 19e siècle, il se place dans une époque de la mer bien déterminée. Et on peut distinguer toute une série de visions différentes de la mer avant le 19e siècle, dans ce 19e siècle, avec différentes variations, et puis au 20e siècle et jusqu'à nous. Et Michelet, donc, c'est le moment où la mer devient un principe de vie. C'est au cœur du texte de Michelet. D'ailleurs, il parle de cette gelée. Michelet pense en fait que la mer produit elle-même une gelée qui va prendre vie. Et que donc, si la vie vient de la mer, c'est que la mer produit réellement la vie, qu'il y a une affinité mystérieuse entre la mer et la vie. Et il explique par là que les bains de mer sont bons pour la santé. Et effectivement, c'est le moment où on commence en fait à se baigner. Jusqu'au début du 19e siècle, on déteste la mer. La mer, c'est le chaos, quelque chose qu'il faut fuir. Et puis au 19e siècle, les médecins anglais, surtout les premiers, ont l'idée que la mer va nous guérir. La mer va nous guérir, les bains de mer vont nous guérir de toutes sortes d'afflictions, la tuberculose, la mélancolie. Donc on imagine des espèces de tortures pour les malades, bon, différentes sortes. Et Michelet reprend cela et l'explique avec l'idée que la mer, c'est la vie. Donc se plonger dans la mer, c'est rentrer en sympathie avec ce principe de vie qui va nous redonner de la force. Donc les villes, le travail, l'air des villes du 19e siècle chargées de charbon nous épuise et quelques semaines par an, on se replonge dans la mer et on reprend contact avec la vie elle-même.
Mais comment comprendre, justement, vous avez employé ce terme de se baigner, même de sympathie, c'est vrai qu'on se baigne dans la mer, néanmoins, comment comprendre à la fois cette familiarité, la mer, la plage, fait souvent partir de souvenirs d'enfance, constitue des événements familiers dans notre vie, et en même temps, il y a une pure étrangeté de la mer, et d'ailleurs, dans le texte de Michelet, quand il dit que la mer nous dit trois choses, à savoir la vie, l'immortalité, et la solidarité et l'humanité, ça va ensemble. En fait, finalement, il emploie des grands termes généraux. Ça ne veut pas dire grand-chose, on pourrait se dire. C'est-à-dire que ça ne dit rien de familier pour nous. La vie, l'humanité, c'est des grands termes universels qui nous paraissent très éloignés de notre quotidien.
Oui, alors
et de souvenirs très précis d'enfance, par exemple.
Oui, alors c'est effectivement, dans mon livre, il y a beaucoup de souvenirs d'enfance. Et puis, je crois que c'est quelque chose de général que... Il y a une sorte d'ambivalence de la mer, que la mer, souvent, est associée à des souvenirs d'enfance, parce qu'on y a été quand on était enfant, et que pour l'enfant, il y a quelque chose de merveilleux dans la plage. Voilà, c'est un rapport au corps qui, sans doute, est libéré d'un certain nombre de contraintes, en particulier pour les enfants, et que les enfants donc adorent. Donc la mer, c'est les souvenirs d'enfance.
Et c'est aussi le temps des vacances, donc on est libéré des contraintes temporelles et spatiales.
Voilà, oui, vous avez raison, oui, libéré de toute une tenue du corps, et aussi donc de une tenue du corps qui s'exprime particulièrement à l'école, et à la mer, il n'y a ni école, ni au moins pour les vacanciers, ni école, ni c'est ne serait-ce que ses habits, hein. Donc la mer, c'est cette enfance, quelque chose donc de sorte de familiarité, un rapport nostalgique. Et puis c'est aussi l'étrangeté, y compris pour les enfants, que les enfants, ils ont souvent peur de la mer, peur des vagues.
Et vous racontez d'ailleurs votre expérience de la peur de la mer, enfin pas vraiment de la peur, mais du moins d'une étrangeté qui vous empêche de mettre un pied dans l'eau.
Oui, c'est quand je suis enfant, je prends des cours de natation je n'ai pas l'intention de me plonger dans l'eau et je regarde le maître nageur s'occuper des autres enfants et petit à petit il s'énerve jusqu'au moment où très brusquement il décide de me prendre pour me jeter au large et je tente de m'enfuir et je n'ai évidemment aucune chance de lui échapper, mais ces quelques instants j'ai vraiment le sentiment d'une absolue liberté courant vers les tamarins qui sont sur la terrasse. Et voilà. Et en fait, ce que je dis pas dans le livre, c'est que je lui ai échappé parce que le maître nageur est tombé dans un trou. Enfin, quelqu'un avait creusé un trou, il est tombé, il s'est foulé la cheville et j'ai fait gronder vraiment. Mais je lui ai échappé. J'ai été moi-même surpris finalement parce que je savais dans ces instants de liberté qu'il serait court et qu'il serait suivi d'une expérience désagréable, celle de l'eau froide. Mais en fait, justement, je n'ai pas été rattrapé comme mon corps s'y attendait. Et simplement puni bien après. Bref, tout ça pour dire que il y a cette ambiguïté entre quelque chose de familier, quelque chose qui se rattache à un passé indéfini, celui de notre enfance, peut-être d'autres enfances même avec lesquelles nous communiquerions, et puis une étrangeté, une peur que les enfants, ils ont peur de l'eau, ils ont peur des vagues, et cette ambiguïté de la mer, elle se retrouve dans toutes les descriptions de la mer. Et ce qui, justement, dans cette ambiguïté, ce qui m'intéressait fondamentalement, mon livre, c'est d'abord un livre d'amour sur les plages. Que j'adore la plage et en écrivant ce livre, il s'agissait d'abord de rester un peu plus longtemps sur la plage en écrivant toute l'année à propos de la plage et puis d'essayer de comprendre ce que j'aimais dans la plage. Qu'est-ce que c'était que cette plage? Et pour essayer de décrire la plage de cette façon, il y avait différentes dimensions. Il y avait ces souvenirs d'enfance, mon propre passé sur la plage. Mais il y avait des tentatives de d'élucidation philosophique vraiment de la plage. Qu'est-ce que c'est que l'eau finalement? Qu'est-ce que c'est qu'une vague? C'est tout à fait difficile en fait de savoir ce que c'est qu'une vague. On croit la voir, mais elle a peut-être pas de réalité hors de notre œil. Mais il y avait aussi l'idée de reprendre, centré sur un même bord de mer, toute une série de descriptions historiques, des descriptions depuis le 19e siècle jusqu'à maintenant, et des descriptions dont on voit qu'elles se modifient extraordinairement, qu'on ne voit pas du tout la mer comme on la voyait au 18e siècle, ni même comme la voit Michelet. On ne croit pas que l'écume, ce soit une gelée vivante qui va donner corps à la vie. Donc des descriptions et des visions tout à fait différentes. Et dans ces descriptions, ce qui se maintient, le caractère qui est le plus souvent attribué à la mer, c'est son éternité. C'est-à-dire cette image que l'on a, que lorsqu'on regarde la mer, ce qu'on voit, c'est la même mer que voyait le premier homme qui, à moitié singe, s'est mis debout sur la dune et a regardé l'horizon.
La pratique de la réflexion, le retour au sujet réfléchissant qui devient volontiers sujet universel. Ce retour n'est pas considéré, il me semble, par la doctrine de Husserl, quand on la regarde dans tout son lent développement, comme une position entièrement satisfaisante et finale. Et par conséquent, il me semblait qu'il y avait lieu aussi de souligner chez Husserl tout ce qui, d'après ses propres déclarations, s'oppose à ce pur et simple retour à l'intérieur. Tout ce qui non seulement l'empêche, mais en fait, mais qui nous fait penser même qu'il y a une vérité aussi de l'extérieur, de l'irréfléchi et de tout ce que la conscience n'arrive pas à posséder vraiment.
Vendredi récoltait des fleurs de myrte lorsqu'il aperçut un point blanc à l'horizon. Aussitôt, il sauta de branche en branche jusqu'au sol et courut d'une traite prévenir Robinson qui achevait de se raser la barbe. Le visiteur doublait les dunes du Levant et, très probablement, mouillerait dans la baie du Salut. Robinson mesura tout à coup le poids extraordinaire des quelques instants qui restaient avant que l'homme de proue croche dans les rochers avec sa gaffe. Comme un mourant avant de rendre l'âme, il embrassait d'une vision panoramique toute sa vie dans l'île et surtout cette vaste plage de temps, vierge de toute mesure, où sa métamorphose solaire s'était accomplie dans un calme bonheur. Il eut un raclement et l'étrave de l'embarcation se souleva avant de s'immobiliser. Des hommes sautèrent dans le déferlement des vagues. La barbe noire tendit la main à Robinson. William Hunter, de Blackpool, commandant de la goélette, le Whitebird. Robinson lui demanda « Quel jour sommes-nous ?»
Pierre Kasounoguès, c'est tout d'abord la voix de Maurice Merleau-Ponty qu'on a entendue dans une archive de la RTF du 28 juin 1957. Puis c'est la voix du comédien Denis Lavant qui lisait un extrait de Vendredi ou les limbes du Pacifique de Michel Tournier, c'était, qui date de 1967. Dans ces deux extraits, dans ces deux éléments, on entend que la mer dépasse profondément le sujet. Merleau-Ponty envisage contre Husserl l'idée que le sujet puisse ne pas parvenir à atteindre une réalité irréfléchie qui le dépasse. N'est-ce pas ce qui se passe avec Robinson qui parle de cette île comme de cette vaste plage de temps qu'il n'a pas pu mesurer, qui quand il voit arriver cette personne qui va le sauver, c'est à la toute fin du roman, va lui dire « Quel jour sommes-nous ? » Est-ce que la mer est cet élément antérieur qui de toute façon excède notre intellect, notre entendement ?
Oui, alors justement, c'est très intéressant de mettre ces deux extraits côte à côte. Parce que effectivement, la mer dépasse l'entendement et on ne la mesure pas d'un point de vue, justement de la description. On ne la décrit pas entièrement et la mer, c'est ce qui échappe particulièrement à la description. Que comment décrire la mer ? Que nos mots habituels, ils sont faits pour décrire des choses. Voilà, je décris une table, elle est grise, etc. La mer, comment la décrire alors que ce n'est pas une chose, alors qu'elle est mobile? Que justement, la couleur de la mer, elle n'est jamais fixe. Elle se modifie sans cesse, alors que la couleur d'une chose, elle est relativement fixe. Que la mer n'a pas de forme fixe. Donc, justement, la mer, c'est particulièrement ce qui échappe à la réflexion. Et c'est surtout sensible dans le texte de Robinson, on pourra y venir, c'est aussi ce qui échappe à notre conception habituelle du temps. Et c'est pas par hasard que justement Robinson demande « Quel jour sommes-nous ?» que sur le bord de la mer, sur cette île, il est perdu le sens du temps. Mais en même temps, lorsque Merleau-Ponty oppose à Husserl cette idée que la réalité, le sensible, elle excéderait la conscience et que la conscience, contrairement à ce que veut Husserl, ne peut pas entièrement reconstituer la réalité. En même temps, dans ses textes, les exemples qu'il va prendre, comme toute la phénoménologie, en fait, depuis Husserl jusqu'à Derrida, ce sont c'est les exemples, ce sont toujours des exemples terrestres. Et c'est quelque chose de remarquable que la philosophie, et il y aurait une multitude d'exemples depuis Descartes jusque donc dans la phénoménologie, la philosophie s'attache à la Terre. La philosophie est essentiellement terrestre. Et dans la phénoménologie, c'est absolument remarquable que on entend décrire d'abord, et en même temps, les exemples qu'on prend sont toujours en référence à la Terre. Il y a, c'est évident, simplement dans les mots, une récurrence du problème de la Terre chez Husserl, chez Heidegger évidemment. Merleau-Ponty lui-même, c'est extraordinaire, il passe, lorsqu'il écrit l'œil et l'esprit, il est en vacances sur la Côte d'Azur. Il est donc au bord de la mer. Le seul exemple d'eau qu'il prenne dans ces textes, c'est l'eau de sa piscine. Et la piscine, c'est pas la mer. C'est-à-dire que l'eau de la piscine,
elle est limitée.
Elle est limitée, exactement, dans une forme bien rectangulaire. Ce n'est pas du tout la mer. Et qu'il y a, en fait, que le bord de mer, c'est une sorte de refoulé pour la philosophie. C'est-à-dire que on ne veut pas, le philosophe ne veut pas entendre parler du bord de mer. C'est véritablement un refoulé qui, à mon avis, est lié à Descartes et à une image qui revient chez Descartes, c'est-à-dire le fait que la philosophie, elle veut une certaine forme de certitude et donc quelque chose de stable.
De solide,
voilà.
D'ancré.
Et pas d'ancré, parce
d'ancré
que justement...
Dans le sol, on va dire.
Que Descartes, il veut planter l'arbre de la science. Et c'est plutôt que ancré, je dirais enraciné. Et on voit dans les textes de Descartes, c'est vraiment très très clair que dans les méditations métaphysiques, il y a le doute, donc commence par douter de tout, et Descartes nous dit, c'est comme si j'étais plongé dans une eau trouble où je n'arrive pas à reprendre pied, et puis, le début de la certitude, le cogito, on reprend pied sur la terre ferme, et là, petit à petit, on va planter l'arbre de la science. Et cette idée que la philosophie, c'est cette certitude stable, bien enracinée dans la terre ferme, elle reste, et on la retrouve donc dans la phénoménologie, y compris chez Merleau-Ponty, avec... Donc ces exemples qui sont toujours des exemples sur la Terre. Le mouvement, c'est marcher. Pourquoi c'est pas nager ? Pour analyser le toucher, et ça on va retrouver chez Husserl, chez Merleau-Ponty, mais jusque chez Derrida ou de façon très contemporaine chez Jean-Luc Nancy, le toucher, c'est toujours toucher une chose. Et toucher une chose, c'est tout à fait différent de cette autre forme du toucher qu'est le bain. Le bain aussi, c'est toucher. Mais qu'est-ce qui se passe ? Lorsque on touche une chose... Eh bien, si je pose ma main sur la table, dans ce contact, je vais à la fois faire apparaître la texture de la table, mais je fais aussi apparaître la forme de mon propre corps, la forme de ma main. Et je donne donc une texture aux choses et une limite très précise à mon propre corps. Alors que justement, dans le bain, on a une sorte de floutage de ces limites. Que quand je me baigne, et c'est le cas, c'est une expérience que décrit Michel Tournier dans Vendredi ou Les Limbes du Pacifique, tout à fait au début, Vendredi va se baigner dans la souille. C'est-à-dire, ce sont des marais dans un coin de l'île, et ces marais ont la température de son corps. Et dans un bain à la température du corps, eh bien, le corps perd ses limites. Qu'il y a à la fois une forme de toucher, et en même temps, ce toucher, au lieu de marquer les limites de mon corps, il les rend diffuses, ces limites, comme si j'allais me confondre avec la totalité de cette mer, ou dans le cas de Vendredi, la totalité de l'île dans laquelle ils s'enfoncent. Donc, on a des exemples dans la phénoménologie qui sont terrestres et qui sont tout à fait déterminants pour ce qu'on va dire du corps. Que ces exemples, d'autres exemples de bord de mer, eh bien, ils conduiraient à une conception du corps et une métaphysique, finalement, fondamentalement différente. Et je pense que, de façon vraiment très concrète, la plage, c'est encore pour nous, on n'est pas comme Robinson, on ne se défait pas entièrement de nos repères terrestres, bien sûr, mais la plage, c'est vraiment une autre façon de vivre son corps, si vous voulez, et qui, je pense, se concentre sur la peau. Qu'il y a une vraie question de la peau à la plage. Dans le bain, je disais que cette limite du corps que marque la peau, elle se défait dans le bain, mais elle se défait aussi dans la sieste au soleil. Peut-être que c'est aussi pour ça qu'on enlève ses vêtements pour justement pouvoir laisser les limites de son corps se diffuser, alors que les vêtements, ils marquent les limites, ils nous protègent et ils nous enferment et marquent à nouveau et d'une façon artificielle, ils renforcent les limites de nos corps. Mais peut-être aussi que l'huile dont on se tartine, c'est encore une fois une façon de jouer sur les limites du corps. Donc il y a dans la plage, il y a vraiment un autre rapport. Pas un autre rapport à son corps, mais une autre façon de vivre son corps qui se focalise sur cette question des limites du corps.
Il y a aussi un autre rapport à sa conscience, puisque si la mer dépasse notre entendement, comment peut-on proposer une métaphysique même d'un bord de mer, comme vous tentez de le faire, Pierre Kasounogasser, qu'est-ce que l'on va saisir comme objet de la mer, sur quoi, quelle va être la dimension métaphysique de la mer, alors même que c'est un objet qui est antérieur à nous, qui nous enveloppe, qui nous est à la fois familier et en même temps étranger, dans lequel on se baigne, mais dans lequel on perd cette notion entre l'intérieur et l'extérieur, et qui en plus est mouvant. Alors, sur quel socle, ou alors justement, pour reprendre ce terme d'ancrer, comment on va ancrer une métaphysique d'un bord de mer ?
Oui, alors là, ancrer va parfaitement. Il s'agit effectivement d'ancrer une métaphysique du bord de mer. Ben, voilà, d'une certaine façon, Merleau-Ponty a raison contre Husserl que cette... La réalité, elle excède la conscience, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas de la même façon, finalement, que la terre ou que les choses terrestres vont excéder la conscience que la mer. Alors, comment faire une métaphysique du bord de mer ? En même temps, donc, je critique un peu Merleau-Ponty sur cette idée, sur ce refoulement de la mer, qui est présent même chez lui, et Merleau-Ponty est pourtant très important pour moi, et en particulier cette idée de Merleau-Ponty que le but de la philosophie, au fond, c'est de décrire. Merleau-Ponty dit si. Il s'agit de porter l'expérience à l'expression, c'est-à-dire d'écrire, mais avec l'idée qu'une bonne description, une description satisfaisante, elle ne se contente pas de dire la mer est bleue, elle va développer tous les problèmes conceptuels qui se trouvent dans cette description. Que finalement, une description de la mer, eh bien, elle reprendrait la mer entièrement dans le langage, elle ne laisserait rien de la mer hors du langage et elle rendrait ce langage entièrement transparent. Donc évidemment, c'est impossible puisque la mer excède, mais cette métaphysique, elle va donc passer par la description. Et donc c'est pour moi quelque chose de très important que de commencer par décrire et il s'agit de prendre des descriptions, justement, Michel Tournier, ou des descriptions d'auteurs, ou des d'écrivains, ou des descriptions historiques.
Ou mais des aussi, descriptions personnelles.
Voilà, mais aussi de tenter moi-même de décrire le bord de mer, de décrire une scène de plage aujourd'hui. Et pour moi, c'est vraiment un défaut de la philosophie contemporaine que de renoncer à décrire. C'est comme si... on a tendance à ne faire que se référer à des descriptions extérieures, que ce soit des descriptions d'écrivains ou bien des descriptions des philosophes antérieurs. On dira, ben, rappelez-vous, le morceau de cire de Descartes.
La philosophie se contente d'être dans le commentaire, finalement, de descriptions déjà existantes, plutôt que de produire de la description sur laquelle s'appuyer.
Voilà, c'est comme si on avait perdu le contact avec la réalité que les philosophes d'avant avaient toujours. Donc, essayer de décrire, et à partir de cette description, eh bien justement, faire ressortir les questions conceptuelles qui s'y jouent. Et l'une de ces questions conceptuelles, c'est en effet cet excès de la mer. Le fait que, eh bien, dans la mer, il y a à la fois... que nous avons une vision de la mer, nous pouvons décrire la mer et qu'il y a, nous le décrivons de façon différente et que dans ces descriptions même, nous sommes sensibles à cet excès de la mer. Et voilà, et donc qu'est-ce que la mer, si vous voulez, qui à la fois se donne dans une vision ou une description et pourtant les excède.
On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. On regardait les autres gens comme ils dépensaient leur argent. Nous, il fallait faire attention quand on avait payé le prix d'une location. Il ne nous restait pas grand-chose. Alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, les palaces, les restaurants, on ne faisait que passer devant. Et on regardait les bateaux, le matin on se réveillait tôt, sur la plage pendant des heures, on prenait de belles couleurs. On allait au bord de la mer.
Il est 10h31, vous écoutez France Culture, bienvenue sur les chemins du vendredi où j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui et pour la dernière émission de la saison, Pierre Kasounogas, philosophe et écrivain, professeur à l'université Paris 8, pour son livre « Métaphysique d'un bord de mer » qui vient de paraître aux éditions du Cerf.
Viens voir, Christine. Regarde. Magnifique, tu ne trouves pas? Quel ravissant spectacle, n'est-ce pas, chers messieurs? Justement, j'admirais la mer. Ces rochers, ces petites voiles blanches, tout ça, c'est vraiment joli. Qu'est-ce qu'on aperçoit là-bas? C'est Saint-Nazaire? Vous voyez au loin, là-bas, de ce côté?
Là-bas.
Pour moi, les vacances au bord de la mer sont toujours très agréables et reposantes. Malheureusement, il y a trop de vent. On n'est jamais bien coiffé, n'est-ce pas?
On ne peut se guider par aucun objet remarquable. Et d'ailleurs, le moindre vent emporte le sable le plus fin et vous aveugle, à moins qu'il ne tombe de l'eau. Quelque chose d'assez singulier est la métamorphose de ces dunes les plus hautes en vallon et en montagne. Le vent étant violent, il enlève le sable qui forme les montagnes et comble les vallons. Il élève même quelquefois des montagnes d'une hauteur extraordinaire et où était la montagne, il s'y forme un vallon. Ce qui fait découvrir des maisons et des arbres de village qui ont été couverts par ces sables. Pierre Kasounogas, alors beaucoup l'auront reconnu grâce à sa musique. On a entendu un extrait du film de Jacques Tati, Les vacances de Monsieur Hulot, qui date de 1953. Et juste après, j'ai lu un extrait d'un texte de Claude Mas, qui est beaucoup moins connu, mais que vous citez dans votre livre Métaphysique d'un bord de mer. Alors Claude Mas, c'est un ingénieur géographe, c'était un ingénieur géographe chargé par le roi dès 1688 de cartographier les côtes françaises. Et il était face à ce monde chaotique qu'il ne parvenait pas à domestiquer, ce qu'on entend aussi d'une certaine manière dans les vacances de Monsieur Hulot, car même si les bords de mer sont devenus des stations balnéaires où les estivaliers ont leurs habitudes, le vent continue de décoiffer. Qu'est-ce qui résiste au bord de la mer à faire un monde? Qu'est-ce qui fait que le temps et l'espace ne parviennent pas à constituer un monde ou alors une autre forme de monde, Pierre Kasounogas?
Alors, dans le cas de Claude Mas, c'est vraiment le chaos. Et Claude Mas est un personnage que j'adore. Enfin, j'aime aussi beaucoup le film de Jacques Tati. Et je crois que si je devais emmener une chose sur une île déserte, je l'emmènerais à condition d'avoir le lecteur, mais que je pourrais passer à plusieurs années sur cette île déserte comme Robinson sans me lasser de voir le film de Jacques Tati. Et peut-être que justement ce film qui à la fois effectivement montre le l'étrangeté de la mer et la façon dont elle nous oblige à nous défaire des habitudes terrestres. On n'est jamais bien coiffé sur la mer, comme dit la dame. En même temps, c'est une mer qui est extraordinairement civilisée, hein, très, très douce. Il n'y a rien de grave, finalement. Enfin, dans le film de Jacques Tati, tout, ou plutôt les choses graves sont prises avec une poésie et douceur qui les rend drôles,
de légèreté,
et inoffensives. Et en même temps, donc, on est jamais bien coiffé. Là, il y a quand même quelque chose qui nous oblige à défaire ces habitudes corporelles. Et c'est aussi, il y a un rapport au temps tout à fait étrange dans le film de Jacques Tati. Il y a d'abord le fait que c'est centré sur l'enfance, et il y a toujours beaucoup d'enfants dans les scènes de plage du film, et d'une certaine façon, Monsieur Hulot se comporte lui-même comme un enfant, donc c'est une espèce de nostalgie de l'enfance, et finalement une espèce de nostalgie indéfini. Et il y a quelque chose de très remarquable dans le film, quand je disais que les choses graves deviennent semblent devenir inoffensives, hein, c'est le rapport à la guerre, que le film, il est de l'immédiate après-guerre, et Jacques Tati, tout à fait à la fin du film, hein, Jacques Tati se trouve se cacher avec une allumette dans une cabane dans laquelle sont stockés des feux d'artifice, ça va être l'explosion, et c'est d'une certaine façon mimé, mais sur ce mode drôle et poétique et qui la rend inoffensive, la guerre qui a détruit une partie de ces stations balnéaires normandes. Donc c'est une espèce de nostalgie indéfinie et qui part tout ce qui peut arriver de cette espèce de douceur, justement d'une douceur qu'on pourrait associer à l'automne, mais qui se trouve toujours dans les stations balnéaires, que souvent, les stations balnéaires, elles ont quelque chose de nostalgique qui est finalement difficile à expliquer. Que les stations balnéaires, elles évoquent un passé, encore une fois indéfini, qui n'a jamais existé, mais qui serait merveilleux.
Qui peut être d'ailleurs le passé une sorte de passé virtuel de l'été dernier, qui n'est toujours pas là, qui n'arrive pas ou qui est passé.
Exactement, on voit, il y a un texte de Maupassant qui s'appelle Les épaves, qui date donc du début des stations balnéaires. C'est une époque où les stations balnéaires, elles sont toutes neuves, quand elles ne sont pas encore en train d'être construites. Et pourtant, ce texte, il est déjà plein de nostalgie. Et sans doute que ce qui évoque ce qui finalement produit ce passé indéfini, c'est la mer elle-même qu'on n'arrive jamais à bien situer dans le temps, à bien se rendre présente. C'est comme si finalement, sur le bord de la mer, il y avait deux rapports possibles, cette nostalgie, ce regret donc d'un passé qui n'a sans doute jamais existé, et ce mythe de l'absolu présent. Ça serait comme dans la chanson « Sous le soleil exactement ». Voilà, on serait parfaitement sous le soleil, dans un plaisir entier, et que sans doute on cherche toujours, auquel on rêve en étant sous le soleil, sans jamais le trouver, parce qu'on n'est jamais sous le soleil exactement. Mais comme s'il y avait ces deux états, la nostalgie indéfinie, que le film de Jacques Tati reprend parfaitement, et ce rêve du soleil.
En tout cas, ça n'est jamais un temps physique, ça n'est jamais un temps des montres, ça vous l'expliquez très bien dans votre livre. C'est-à-dire que quand on fait une promenade en bord de mer, vous racontez cette expérience-là, Pierre Kasounoguès, il y a le temps, en fait, s'allonge. C'est-à-dire que ce n'est plus 3 heures de promenade, c'est un temps indéfini qui s'est étiré en un nombre infini de vagues, qui suit d'ailleurs ce mouvement-là de va-et-vient, mais ça n'est pas le temps physique, ça n'est pas non plus un temps proprement psychologique, en fait. Il y a une sorte d'entre-deux dans ce temps.
Oui, alors on le voyait très bien dans l'extrait que vous avez passé de Michel Tournier et Robinson, qui a perdu le sens du temps sur l'île. C'est-à-dire l'idée que Michel Tournier met en scène dans le roman, c'est l'idée que le temps mesurable, le temps des heures, des montres et du calendrier, c'est le temps terrestre et c'est un temps qui s'accumule. Qui s'accumule, chaque jour vient l'un après l'autre. Et justement, comme la Terre peut les différentes strates peuvent se superposer. Et on associe d'ailleurs l'idée du temps à celle des strates, comme les strates archéologiques, des différentes couches se sont superposées les unes aux autres. Sur la mer, le temps ne passe pas comme ça. Et que, d'abord parce que le temps le passé historique, eh bien, ne se dépose pas en strates, hein, il continue à circuler sur l'eau.
Les vagues s'interpénètrent, il n'y a pas une vague, ne succède pas à l'autre en tant que telle. En fait, voilà. Il y a un mouvement de va-et-vient, l'une chasse l'autre, mais parce qu'elles sont tout le temps une, augmente l'autre, en fait, finalement. L'autre vague qui descend ne descend que parce que l'autre remonte, finalement. Elles ont un besoin réciproque l'une de l'autre.
Oui, alors
Enfin, je parle de vagues, je décris peut-être pas toutes les vagues, mais...
Oui, non, mais les vagues, il y a en plus quelque chose d'extraordinaire, c'est que les vagues n'ont pas d'existence physique. C'est-à-dire que les vagues, nous, on les voit avancer. Alors qu'une vague, en fait, n'avance pas. Une vague, c'est un point à la surface de l'eau qui monte et qui descend, mais sans avancer. Elle monte et descend sur place. Mais notre perception fait que, au lieu de voir l'eau avancer, monter et descendre au même point, on voit la vague avancer, sans doute parce qu'on a parce que par atavisme, on imagine des bêtes qui nous poursuivent. Enfin, Michelet parle sans arrêt dans le livre des vagues comme des bêtes qui poursuivraient le nageur. Mais la vague, donc, n'a pas d'existence physique et c'est justement une façon de donner une forme, ou d'essayer de donner une forme terrestre à la mer, de lui plaquer quelque chose qui relève d'un danger terrestre, la bête qui nous poursuit, de lui plaquer ce visage étranger. Mais sur cette idée donc du passé qui n'est pas en strate, on le voit aussi dans l'extrait de Claude Masse, où justement Claude Masse raconte, comme d'autres géographes de l'époque, hein, donc il y a la mer, un paysage de dunes, et comment ces dunes qui sont mobiles dans le vent, parce qu'il n'y a rien pour les fixer, donc elles se déplacent vraiment, comment ces dunes vont enterrer des villages, les découvrir. Et donc, c'est un passé qui ne s'enterre pas, hein, qui va, eh bien, errer à la surface de cette autre mer que sont les dunes. Et le personnage de Claude Masse, vraiment, c'est un personnage que j'aime beaucoup, hein. C'est ce géographe, donc il est né ingénieur au départ, il est né en Savoie, donc dans les montagnes, des choses dures, il dessine des forteresses, là encore, des choses bien dures, solides, et il est chargé de dessiner la côte de France, et il commence par le Médoc, et c'est un moment où cette ligne de côte va varier énormément. Et là, pointe du Cap Ferré sur le bassin d'Arcachon, pendant que Claude Masse y est, va prendre 3 km. Et Claude Masse fait une carte qui doit être suffisamment précise pour déterminer les endroits où l'on pourrait construire des forteresses. Donc vous voyez bien, sur une telle carte, 3 km, c'est énorme. Et on voit la carte de Claude Masse, il essaye de gommer pour rajouter l'agrandissement de la pointe du Cap Ferret. Donc, il écrit des mémoires, en fait, à un moment, il est malade, il se retire à La Rochelle, et il écrit des mémoires pour ses fils qui vont eux-mêmes devenir cartographes. Et il leur explique comme c'est horrible, ce bord de mer, justement parce que c'est chaotique. Et on voit ce paysage de dunes, on voit que pour Claude Masse, ce sont en fait deux mers. Il y a la mer au sens propre, avec des vagues, dit-il, qui sont aussi hautes que les dunes. Évidemment, il imagine que les vagues, elles ne sont pas aussi hautes que les dunes. Les dunes, elles peuvent faire 100 mètres de haut. Donc les vagues, elles ne font pas 100 mètres de haut sur les rivages. Mais il les voit aussi hautes que les dunes. Il les voit à faire se dresser les cheveux sur la tête de l'homme le plus hardi. Et de l'autre côté, il y a les dunes. Et les dunes, c'est une autre mer. Une autre mer qui, simplement, a une plus grande inertie et dont les vagues se développent plus lentement. Donc, c'est un paysage qui est entièrement chaotique et dans lequel le cartographe, évidemment, c'est un cauchemar pour lui. Le cartographe, il doit fixer les choses, en faire une carte. Voilà. Et il n'y arrive pas.
Aux altitudes parfumées de l'arrière-côte, Jean Cocteau préfère la mer toujours recommencée. Mais pour quelle raison exactement, Jean Cocteau? À cause de l'éternel retour, peut-être?
Lorsque j'habite quelque part, je suis très sensible au-dessous, qui compte plus que le climat. Il existe des villes et des villages dont les dessous de métal rendent tout le monde malade. Or, la mer est pour moi le meilleur des dessous, des socles, des bases. Dès que j'y navigue, je me sens comme décollé d'un malaise. Sans doute que le sel et l'iode me conviennent, et ces forêts que nos amis, les pêcheurs sous-marins, visitent. Je me baigne, mais je préfère la voile et vivre à la surface de l'eau. Je sais bien que la médecine me recommande la montagne, mais la meilleure médecine est ce qu'on aime, et j'adore la côte et la Méditerranée.
Ma chérie, je voudrais peindre et peindre mal pour te faire bien voir où je me trouve, d'où je t'écris. Éden colonial avec la mer, la montagne, la forêt. Arcachon ignoble, Ferret et Moulet médiocre. Lot a bien cherché, bien choisi. L'hôtel Brice a 7 chambres, 4 derrière sur les pins, 3 devant, dont la mienne avec sa galerie sur les mimosas, et qui abrite toute une famille d'hirondelles. Chambre en planche, cabine de frégate. Il n'y a pas une maison, 6 cahutes de pêcheurs. Les Lottes en habitent une toute petite et qui ressemble aux cabanes de tennis mais recouvertes de vignes vierges et au centre d'un hérissement de cactus, de touffes d'une espèce de tabac aux grosses fleurs blanches. On rame, on dort, on se roule dans le sable, on se promène tout nu dans des paysages du Texas. Je ne savais pas qu'il existait une si étrange, si belle contrée dont on peut jouir, chez soi, sans le malaise des navigateurs. Comme on ne reçoit pas les journaux et que pour acheter une plume, il faut faire 1 heure de bateau à vapeur, tu seras gentil de me dire les choses importantes que j'ignorerais comme un nègre. Si tu venais, tu me manques. C'est ma tristesse avec Paul. Ton Jean.
Pierre Cassounoguès, on vient d'entendre une archive et un texte de Jean Cocteau. Alors l'archive date de 1950 et le texte est une lettre écrite à sa mère en 1917 qu'on vient d'entendre interprétée par Vincent Schmitt. Et dans les extraits, on entend la manière dont Cocteau finalement parvient à se sentir chez lui dans des endroits de bord de mer qui le dépaysent totalement, dans lesquels finalement il se sent étranger, à la fois chez lui et étranger. Alors comment comprendre, peut-être réfléchir sur ce sujet qui est en bord de mer, qui est justement au bord entre la terre et la mer, mais qui parvient peut-être à y faire un lieu stable.
Oui, alors c'est des textes très beaux de Cocteau. Cocteau donc va sur le bassin d'Arcachon, au Cap Ferret, enfin plusieurs étés après, autour de 1917 jusqu'en dans les années 20, début des années 20. Et il s'y plaît énormément et il va les décrire donc comme un petit paradis. Et on voit très bien comme évidemment, c'est une autre époque du bord de mer. Hein. Cocteau va au même endroit que Claude Masse, là où Claude Masse voyait une mer blanche d'écume qui donc faisait se dresser les cheveux sur la tête. Cocteau s'y promène tout nu et il s'y promène tout nu. Et il y a une autre lettre où il raconte que donc il est véritablement au paradis. Hein, il est tout nu sur la plage et il voit un serpent. Évidemment, un homme au paradis qui voit un serpent, il s'enfuit en courant. Et c'est un texte très très drôle sur cette idée donc de la mer comme paradis. Et on voit donc dans les textes que vous avez diffusés que cette mer comme paradis, elle est aussi liée à un imaginaire colonial. Et c'est un ailleurs que l'on va essayer de recréer ici. Et en même temps, la référence à cet ailleurs montre qu'on n'arrive pas vraiment à incarner cet ailleurs. Il faut faire un effort pour incarner cet ailleurs. On n'y est jamais tout à fait. Alors Cocteau disait qu'il c'était les plaines du Texas, hein, les dunes. C'était les plaines du Texas. Il dit qu'il ignore les nouvelles comme un nègre. Et cette image, elle, justement, c'est un paradis constitué en référence à l'idée coloniale. Hein. C'est-à-dire que c'est le paradis d'un ailleurs, l'ailleurs en l'occurrence des colonies, que l'on va recréer ici. Et cette image du nègre, donc Cocteau vise à incarner lui-même dans cet ailleurs qu'il recrée ici, à incarner lui-même l'indigène. Et Cocteau, donc en particulier, veut bronzer pour ressembler à un indigène. Et dans les lettres à sa mère, il fait un espèce de bilan, toujours un bilan météorologique, hein, il dit s'il fait beau, etc. Et puis un bilan de son bronzage. C'est tout à fait étonnant, donc il lui explique s'il a des coups de soleil, s'il a bronzé, il commence par devenir chinois, etc. Et puis le but, c'est de devenir nègre. Donc on voit dans cette image du nègre, hein, comme c'est l'époque coloniale qui va réinvestir ce bord de mer. Ce bord de mer qui a d'abord été un chaos avec Michelet, avec Claude Masse, qui devient principe de vie avec Michelet. Donc avec Michelet, il ne s'agit pas tant de prendre du plaisir que de revivre. Et à l'époque de Michelet, on imagine toute une série véritablement de tortures pour les malades. On les plonge dans l'eau glacée, il faut qu'ils y entrent d'un seul coup. Et en plus, ils sont vêtus de longues robes grises pour que l'eau s'accroche bien et les alourdisse. Ou il y a un médecin qui, lui, a l'idée qu'il faut au contraire réchauffer l'organisme, donc il enterre ses patients dans le sable et il ne laisse que la tête sortir. Et puis, avec Cocteau, c'est véritablement le plaisir, mais un plaisir qui est aussi imaginaire. Et on peut se demander dans quelle mesure on est toujours dans cette époque de plaisir, ou si l'on n'a pas retrouvé, peut-être à cause d'une inquiétude sur la pollution des eaux, par exemple, ou dont celle-ci serait le signe, si on n'a pas retrouvé une nouvelle sorte d'inquiétude dans le bord de mer, comme en entrant dans encore une nouvelle époque des bords de mer qui ne serait plus du tout ce petit paradis, ou plus forcément ce petit paradis.
Merci beaucoup Pierre Kasounogas d'être venu nous présenter votre métaphysique d'un bord de mer qui, donc je le rappelle, est disponible aux éditions du Cerf. J'en profite aussi pour rappeler que vous êtes l'auteur des rêves cybernétiques de Norbert Wiener, suivi de Un savant réapparaît, c'est au Seuil. La mélodie du tic-tac et autres bonnes raisons de perdre son temps, c'est chez Flammarion. Lire le cerveau, neurosciences, fiction, c'est au Seuil. Mon zombie et moi, la philosophie comme fiction, c'est aussi au Seuil.
Merci.
Et quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve justement à la fin de l'été, à la rentrée. Oui, rendez-vous lundi 29 août avec Adèle Vendrette qui revient pour de nouvelles aventures en juillet et en août. Et à l'heure des nouveaux chemins, vous pourrez écouter les grandes traversées de France Culture. Et ça commence donc la semaine prochaine avec une grande traversée, une saison au théâtre par Geneviève Brisac. Mais si vous ne pouvez pas vous passer de philosophie durant l'été, vous pouvez néanmoins la réécouter en ligne ou la télécharger, la podcaster, je parle bien évidemment des émissions, en allant sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins et vous y trouverez en plus toutes les références bibliographiques et musicales de chaque émission. Et puis vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Twitter pour suivre nos programmes. Et comme c'est la dernière, j'en profite pour remercier toute l'équipe fabuleuse des Nouveaux Chemins, une équipe de choc pour ces mois de remplacement, Marianne Chassor, Nicolas Berger, Midia Portis-Guérin, Lucie Tardy, David Pargamin, Denis Ramon, Colomba Grossi et bien sûr Antoine Ravon. Vous écoutez France Culture, bon été à tous